BW. Vue d'Allemagne.
L'Union européenne cherche depuis des années en vain à mettre en place une politique d'asile commune. En attendant, les contradictions sont de plus en plus criantes entre la défense affirmée des valeurs humanitaires et le traitement des migrants aux frontières extérieures de l'UE. C'est ce que souligne une étude de l'Institut allemand des droits de l'homme. Dans la deuxième partie de ce magazine, on vous emmène aux États-Unis, où le suspense est à son comble à quelques jours de l'élection présidentielle du 3 novembre. Le vote anticipé a commencé dans plusieurs États, dont la Géorgie. Reportage à Atlanta, capitale de l'Amérique noire, que les démocrates espèrent reconquérir. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Refugees Welcome, bienvenue.
La police croate nous bat trop. Il y a deux jours, elle a utilisé des chiens d'attaque. Deux personnes ont eu une jambe et un bras coupés. La police croate n'est pas bonne.
Mohamed a fait une longue route depuis le Pakistan pour arriver aux portes de l'Union européenne. Mais comme beaucoup d'autres exilés, il a atterri dans ce qu'on appelle le cul-de-sac bosnien. À chaque fois qu'il a tenté de passer la frontière, il a été refoulé par des policiers croates et leur méthode brutale. Dans le courant du mois d'octobre, une équipe du Conseil danois des réfugiés a recensé au moins 150 témoignages de migrants qui survivent dans des conditions extrêmement difficiles à la frontière croate. Ils viennent pour la plupart d'Afghanistan, du Pakistan, du Bangladesh ou du Maroc. Leurs témoignages sont accablants envers les autorités croates. Nicolas Bay est le directeur du Conseil danois des réfugiés.
The testimonies we have collected include allegations of...
Les témoignages que nous avons recueillis incluent des allégations de passage à tabac brutaux et prolongés, de personnes déshabillées et forcées à se coucher les unes sur les autres. Certains ont décrit qu'ils ont été forcés à s'allonger sur des bûches, empilées les uns sur les autres. Leurs objets de valeur ont été confisqués, leurs biens personnels détruits ou brûlés. Dans deux cas, nous avons eu des rapports d'abus sexuels graves.
Même si les autorités de Zagreb démentent les violences systématiques infligées aux migrants coincés à la frontière, celles-ci sont un exemple de ce que vivent actuellement ceux qui tentent de rejoindre l'Europe par des voies irrégulières. Un exemple qui est révélateur des contradictions entre les valeurs que défend l'Union européenne et la politique d'asile qu'elle mène. C'est ce que souligne l'étude Human Rights Challenges to European Migration Policy, en abrégé REMAP, qui vient d'être publié en Allemagne par l'Institut allemand des droits de l'homme. Frédéric von Harbou, de l'université Ernst Abbe à Iéna, est l'un des auteurs de cette étude.
L'Union européenne se considère comme promotrice des droits de l'homme, mais souvent elle ne répond pas à ses propres exigences. Les droits de l'homme gagnent de l'importance au sein de l'Union européenne, mais les contradictions sont devenues de plus en plus visibles ces dernières années. On le voit par exemple avec la détention généralisée des demandeurs d'asile aux frontières extérieures ou avec la situation dans les camps de réfugiés. Les contradictions entre les droits de l'homme et la politique migratoire de l'Union européenne y sont particulièrement apparentes.
Un des exemples qui illustre les contradictions de l'UE en matière d'asile, c'est Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières extérieures. En 2019, elle a été dotée de pouvoirs étendus pour sécuriser les frontières, notamment maritimes. Dans le même temps, un code de conduite a été instauré pour ses agents, dans lequel figure notamment l'interdiction des refoulements systématiques. Mais Frontex est dans le viseur des organisations de défense des droits humains. Une enquête de plusieurs médias européens, dont l'ARD et le Spiegel en Allemagne, a révélé preuve à l'appui que des navires de Frontex ont été impliqués ces derniers mois dans plusieurs incidents de refoulement de bateaux de demandeurs d'asile sur la mer Égée entre la Turquie et la Grèce. S'il existe cette fois des preuves vidéo, ce n'est pas la première fois que Frontex est accusé par les ONG de vouloir empêcher les migrants de mettre le pied sur le sol européen. Une question à laquelle la radio publique allemande Deutschlandfunk a confronté la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, lors d'une interview cette semaine.
Non, nous ne devons pas tout faire pour éloigner les réfugiés de l'Europe. Les gens ont le droit de déposer une demande d'asile. Nous avons nos traités, nous avons nos obligations internationales, nous avons notre système de valeurs pour défendre le droit d'asile. Et cela signifie que nous devons empêcher que des réfugiés soient renvoyés en mer. Ces récits m'inquiètent beaucoup et ils sont en total décalage avec nos valeurs et nos traités.
C'est Ylva Johansson qui porte le projet de réforme du droit d'asile de la nouvelle Commission européenne. Le pacte sur la migration et l'asile a pris du retard en raison de la crise sanitaire, mais il a fini par être présenté le 23 septembre dernier après une tournée de la commissaire dans les capitales européennes. Les 27 ministres européens de l'Intérieur en ont débattu une première fois la semaine dernière en visioconférence. Les discussions risquent de durer tant les positions des États membres sont éloignées les unes des autres. Il y a ceux comme la Pologne et la Hongrie qui bloquent tout système de répartition équitable des demandeurs d'asile, et à l'opposé, l'Italie ou la Grèce qui alertent depuis des années sur leurs difficultés à gérer les arrivées par la mer. La faute au règlement de Dublin qui oblige les demandeurs d'asile à déposer leur dossier dans leur premier pays d'entrée en Union européenne. C'est justement un des points qui doit changer avec le nouveau pacte migratoire. Les demandes d'asile devraient pouvoir être déposées dans un pays tiers si un des membres de la famille du demandeur s'y trouve. En cas d'affluence inédite comme en 2015, les États membres devraient en outre avoir le choix entre accueillir des demandeurs d'asile ou prendre en charge le renvoi dans leur pays d'origine de demandeurs déboutés. Le traitement des demandes doit d'ailleurs être accéléré en vue de renvoyer plus rapidement ceux qui n'ont pas la perspective d'obtenir l'asile. Parallèlement, la Commission propose de renforcer les voies d'immigration légales pour favoriser la venue de main-d'œuvre qualifiée, un projet que soutient l'Allemagne par la voix de son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer.
De nombreux pays en Europe ont besoin de main-d'œuvre qualifiée pour des emplois plus ou moins compliqués. Je veux qu'on évite le détour de la procédure d'asile pour quelqu'un qui pourrait travailler ici. Nous devons créer des conditions légales comme celles que le gouvernement allemand a introduites avec les Balkans. Si vous avez un contrat de travail, alors vous pouvez venir travailler en Allemagne.
La réforme du droit d'asile européen prévoit aussi l'installation de centres d'accueil aux frontières extérieures de l'UE, ainsi que des contrôles de sécurité plus poussés. Les auteurs de l'étude REMAP appellent l'Union européenne à la vigilance, en particulier sur les conditions d'accueil dans ces centres qui ne doivent pas se transformer en prison pour migrants. Frédéric von Harbou, co-auteur de l'étude REMAP, conclut sous la forme d'un appel.
Seule une politique migratoire conforme aux droits de l'homme peut être durable.
L'Allemagne, qui assure la présidence de l'UE jusqu'à la fin de l'année, espère parvenir début décembre à un accord de principe sur les points clés du nouveau pacte et à une mise en œuvre législative dès le premier semestre 2021. Allemagne, deuxième partie. C'est mardi prochain, 3 novembre, qu'a lieu l'élection présidentielle aux États-Unis. Mais en réalité, de nombreux Américains ont déjà déposé leur bulletin, y compris le président sortant Donald Trump, qui brigue, comme vous le savez, un nouveau mandat. La Géorgie, dans le sud-est du pays, fait partie des États qui ont ouvert le vote anticipé à la mi-octobre. Sa plus grande ville, Atlanta, est regardée de près, car elle pourrait faire basculer cet État clé dans le camp démocrate, 4 ans après la victoire de Donald Trump avec moins de 200 000 voix d'avance. Atlanta, c'est aussi la capitale de l'Amérique noire. La majorité de sa population est afro-américaine et la ville est le berceau du mouvement des droits civiques. Notre correspondant aux États-Unis, Alexis Buisson, est allé à la rencontre de sa communauté afro-américaine qui vote avec détermination depuis le 12 octobre.
Nous sommes à la mi-octobre en banlieue d'Atlanta, la plus grande ville de l'État de Géorgie. Une centaine de personnes fait la queue devant une bibliothèque transformée en bureau de vote. Ici, l'élection présidentielle a commencé le 12 octobre avec le coup d'envoi du vote anticipé. Lecture, étirement, les électeurs présents dans la file d'attente patientent comme ils peuvent. Ils doivent attendre près de 2 heures pour pouvoir entrer dans le bâtiment. Il y a même une association qui distribue des petits plats et des bouteilles d'eau gratuitement pour aider ces électeurs très patients. Il en faudra plus pour décourager John Wall de voter. Cet Afro-Américain est venu en famille pour battre Donald Trump.
Je n'ai jamais vu une telle mobilisation depuis l'élection de Barack Obama en 2008. Normalement, les files d'attente ne sont pas aussi longues. Ça veut dire qu'on voit ce qu'il se passe et qu'on veut un changement.
Cette motivation en dit long sur l'état d'esprit qui règne à Atlanta. La veille et l'avant-veille, certains électeurs ont attendu 8, voire 11 heures pour pouvoir voter. Des files d'attente extrêmes liées à des dysfonctionnements des machines de vote, mais surtout à une très forte participation selon les autorités locales. C'est en partie parce qu'Atlanta n'est pas un lieu comme un autre. Les Afro-Américains sont majoritaires dans cette ville, surnommée la Mecque noire de l'Amérique. Elle est le berceau de Martin Luther King et de bien d'autres leaders du mouvement des droits civiques. Après 4 ans de présidence Trump, marqués par les ravages économiques et sanitaires du Covid-19 au sein de la communauté noire et les manifestations antiracistes Black Lives Matter, Atlanta est prête à tourner la page. Le 15 octobre dernier, un groupe de volontaires en t-shirt jaune se rassemble dans le parking d'une église. Ce sont des conducteurs de vannes qui ont répondu à l'appel lancé par une association appelée NACA, qui aide les populations défavorisées à accéder à la propriété. Pour la première fois pour une élection, NACA a mobilisé 150 véhicules pour transporter gratuitement les électeurs jusqu'à leur bureau de vote et les ramener chez eux. Ce service vise à accroître la participation électorale des personnes les plus démunies, qui sont souvent noires. Lucrecia Doyle est afro-américaine et fait partie de cette petite armée de chauffeurs volontaires. Elle ne voit pas les longues files d'attente aux abords des bureaux de vote comme un bon signe pour la démocratie.
Lundi, au premier jour du vote anticipé, il n'y avait que 2 bureaux de vote pour tout le comté de Henry, au sud d'Atlanta, où les Afro-Américains sont le groupe racial le plus important. Si tous les bureaux avaient été ouverts dès le premier jour, nous n'aurions pas eu à faire la queue pendant 7 ou 8 heures.
Les Noirs d'Atlanta et du reste de la Géorgie connaissent malheureusement trop bien les barrières qui les empêchent de voter. En 2018, la Géorgie aurait pu élire une femme noire gouverneure, une première aux États-Unis, mais son adversaire, un homme blanc conservateur qui supervisait les élections, a retiré des centaines de milliers de noms des listes électorales et fait fermer des bureaux de vote dans des quartiers noirs. Il a fini par remporter l'élection avec 55 000 petites voix d'avance. Les Afro-Américains d'Atlanta n'ont pas oublié cet épisode et veulent tout faire pour que leur voix soit entendue, même si cela signifie patienter des heures pour voter. Billy Hunter est en première ligne pour faire en sorte que les voix des Afro-Américains soient entendues. Il est l'un des responsables du New Georgia Project, une association qui veut accroître la participation électorale des jeunes Afro-Américains en Géorgie, un groupe qui ne vote pas beaucoup. Son association a inscrit quelque 400 000 personnes sur les listes électorales en 6 ans, en allant parfois les chercher dans des endroits inattendus, comme sur la plateforme d'amateurs de jeux vidéo Twitch. Billy Hunter.
Il faut aller dans les écoles parler aux jeunes de 18 ans. Il faut être déterminé et ne pas attendre qu'ils viennent à vous. Si la démarche est intentionnelle, c'est plus facile. Il faut être agressif, avoir des conversations pour expliquer pourquoi c'est important de voter. L'engagement des jeunes adultes et des hommes noirs l'est particulièrement. Ce sont des groupes qui ne sont pas inclus dans le processus de décision politique ou dans la manière dont les équipes de campagne décident de cibler certains électeurs.
Pour obtenir le vote des Noirs américains, Donald Trump met en avant les chiffres du chômage historiquement bas enregistrés au sein de la communauté avant le Covid-19. Le démocrate Joe Biden met en avant ses liens anciens avec les Afro-Américains, tissés au cours de près de 50 ans de carrière, dont 8 comme vice-président de Barack Obama. Un argument qui ne convainc pas toujours les jeunes Noirs, qui se demandent ce que Joe Biden a fait pendant tout ce temps pour lutter contre le racisme. Breanna, une Afro-Américaine de 19 ans, participe à sa première élection présidentielle.
Avec tout ce qu'il se passe, le virus, le racisme, il faut battre Donald Trump. J'ai voté pour Biden, mais aucun des deux candidats n'a vraiment expliqué ses projets pour la jeunesse. Ce n'est pas bien, ils ne répondent pas aux questions.
À Atlanta, Alexis Buisson pour Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, rendez-vous avec Hugo Flotatalon pour un nouveau magazine. D'ici là, vous pouvez réécouter tous les numéros dans la médiathèque sur notre site dw.com/français. Portez-vous bien. Tchuss !